Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, très ravie aujourd'hui de vous faire écouter ce super épisode avec Françoise Nallet, praticienne en thérapie par la mémoire cellulaire et canal spirituel. Alors il fait déjà partie de mes épisodes préférés, je vais aller vite dans la description pour que vous écoutiez Françoise rapidement, mais dans cet épisode, elle nous parle de ses deux NDE. NDE, ce sont des Near Death Experiences, les expériences de mort imminente, et comment ça l'a transformée, comment elle communique avec d'autres dimensions et entités, qu'est-ce que la mémoire cellulaire, par quoi nos cellules sont influencées, comment se passe une séance type. On parle également des codes de guérison, des ondes θ, de l'ego, et oui, ce bon vieux coco, des erreurs que l'on peut faire, de l'incarnation sur Terre, du karma, du taux vibratoire, comment aider nos cellules au quotidien, comment déprogrammer nos croyances. Bref, c'est vraiment complet et c'est d'ailleurs divisé en deux épisodes. Bonne écoute! Bonjour Françoise!
Bonjour Léna!
Je suis super contente de te recevoir dans mon podcast pour parler d'un sujet qui n'est pas commun, enfin peut-être pour toi. Mais nous allons y remédier tout de suite en parlant de la mémoire cellulaire. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement ?
Alors la mémoire cellulaire, Léna, c'est 100 000 milliards de cellules qui sont à l'intérieur de nous et qui ont gardé des informations qui proviennent de différents plans. À la fois le plan de notre propre expérience, c'est-à-dire l'expérience de maintenant, celle que nous vivons, mais aussi l'expérience de nos ancêtres, c'est-à-dire de ce que nous appelons les lignées. Des informations qui ont été transmises de génération en génération, grâce au cordon ombilical d'abord, mais aussi à la mimétisation, au fait que les personnes s'entendent, se voient, s'observent, et que tout ça, finalement, vient infiltrer la conscience, notre conscience, et donc nos cellules. Et puis, il y a aussi dans nos cellules l'histoire de notre âme, ce que nous appelons plus communément le karma. Mais en fait, le karma, ce sont des histoires qui se sont juxtaposées. Et tout ça, quelque part, figure un logiciel, le logiciel qui englobe les 100 000 milliards de cellules et qui vont nous faire vivre, évidemment, toutes ces petites réalités dans notre expérience de maintenant.
Ah, c'est marrant. J'aime bien la présentation, on voit que c'est bien rodé. Ah, c'est génial. Est-ce que ces cellules, elles sont influencées par nos émotions et nos stress du quotidien ? J'imagine que oui, nos traumas, tout ça.
Alors, les cellules, elles sont évidemment... elles connectent tout. Elles connectent tout type d'informations. C'est-à-dire que notre émotionnel, qui est lié au corps émotionnel, c'est une zone qui se situe à peu près à 2 mètres de notre corps et qui est référencée et liquidien. C'est-à-dire, c'est nos liquides. C'est l'eau qui circule dans notre corps. Et l'eau qui circule dans notre corps a la particularité d'avoir gardé les mémoires émotionnelles. C'est ce qu'on appelle le corps émotionnel. Et dans ce corps émotionnel, c'est exactement comme si on avait un lac, ou un ruisseau. Et dans ce ruisseau, eh bien, il y a des flux. Et dans ces flux, il y a de l'information. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre conscience rencontre une problématique dans la vie, tu vois, une problématique professionnelle, affective, un tourment ou un traumatisme, eh bien, il va y avoir quelque part un réveil de ces mémoires, des mémoires ancestrales et des mémoires karmiques qui vont nous donner cette sensation d'être débordé d'émotions ou d'être extrêmement affecté. Et mais en même temps, c'est un moment très important et très significatif parce que quelque part, quand nous avons ces émotions qui sont très fortes, c'est que nous sommes à la rencontre d'une mémoire. C'est-à-dire que nous sommes en train de sentir et de vivre quelque chose. Et notre corps, évidemment, qui lui est l'acteur principal de nos mémoires, eh bien, est en train de nous témoigner par la douleur, par la réaction émotionnelle, par le battement cardiaque, etc., par toutes les zones corporelles d'influence, qu'il y a quelque chose qui se dit en nous, qui est révélé.
Donc tu veux dire que c'est une opportunité pour transmuter cette mémoire ?
Exactement. Déjà pour comprendre ce qui se passe, parce que le but de la transmutation, et souvent les gens sont un peu paniqués en disant « oui, mais comment est-ce que je peux savoir ce qui se passe ?» Mais en fait, l'idée, c'est qu'au moment même où il y a une situation, le scénario du présent, et que nous avons cette réaction, ça veut donc dire qu'il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie entre le mouvement de l'information de l'extérieur, le scénario, l'expérience, ce que j'appelle l'événementiel, et ce qui se passe en nous. Ça veut dire que nous sommes en interaction. Donc l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Qu'est-ce que je vois de cette situation ? Qu'est-ce que cette situation est en train de me montrer ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle réveille en moi ? Alors, de la colère, de la tristesse, des tourments, quels qu'ils soient d'ailleurs. En fait, ça permet de se synchroniser à la mémoire et de comprendre que il y a une manifestation et que c'est un moment pour justement mettre de la conscience, dire qu'est-ce que je suis en train de vivre, pour pouvoir accepter l'idée de cette réaction corporelle d'abord, l'idée de cette réaction émotionnelle ensuite, et puis surtout comprendre l'élément de l'extérieur, de la vie, qui nous fait vivre quelque chose dans le maintenant. Et en fait, c'est vraiment le point de départ pour s'initier à la mémoire cellulaire.
Et c'est vrai que des fois, il y a des traumatismes, des choses que on s'en souvient pas consciemment, mais le corps, évidemment, il a marqué tout ça. Hein, et on va des fois être trigger, donc ressentir des sensations dans notre corps, mais on va pas savoir pourquoi et d'où ça vient. Est-ce que si on se concentre que sur les sensations, des fois, ça suffit justement? Et ça peut peut-être faire un lien par le somatique, en fait, par une énergie quelconque, je ne sais pas.
Oui, tu as raison, parce qu'en fait, le corps, c'est notre acteur principal. C'est lui, finalement, qui va décoder. Donc, la douleur corporelle, la sensation, le chagrin, enfin, l'émotion, quelle qu'elle soit, quelque part, c'est un message du corps. C'est comme si le corps, il a besoin de traduire ce que nous ressentons. Et en fait, on doit accompagner le corps. C'est-à-dire que si on a mal, et si évidemment il y a une douleur ou une sensation, c'est à nous à mettre les mots dessus. C'est pas à se sentir perdu par rapport à ce qui se passe, mais c'est que le corps, il est en train simplement de parler, de dire. Et c'est à nous à l'aider à comprendre ce qui se joue à l'intérieur, évidemment, au corps qui est quelque part en sonnette d'alarme, pour pouvoir nous traduire avec notre propre langage, notre propre intelligence de vie, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire et nous témoigner, toujours dans le phénomène de synchronicité, à la réalité du maintenant, qui réveille ses programmes au-dedans. Donc évidemment que c'est une rencontre qui ne peut se faire que par l'émotionnel. La mémoire cellulaire ne peut pas se faire par le raisonnement. Elle se fait par l'air intuitif, par la sensibilité, par la perception que ces 100 000 milliards de cellules, dans la réaction chimique presque du corps, elles sont en train de nous dire quelque chose.
Finalement, c'est un peu des êtres à part entière, ces cellules.
Absolument. Il faut savoir que quand je plonge dans la corporalité, c'est comme si on est dans l'infiniment petit, de l'infiniment grand. C'est donc dire que les cellules, elles ont comme si elles avaient des bras, une tête, des jambes, puisqu'elles sont là, de manière minimalisée, exactement ce que nous sommes. Elles sont notre corps entier quelque part. C'est ça. Donc
J'imagine les petits
elles
bonhommes.
ont une tête, exactement. Et c'est ce que je dis souvent quand je fais des émissions. Je dis, c'est comme l'histoire de Gulliver. Tu vois, c'est-à-dire que elles ont une animation intérieure, elles ont de la conscience, elles ont de la motricité, elles ont une intelligence de vie parce qu'elles ont simplement enregistré et elles communiquent avec ces vibrations-là, exactement comme le font le monde des fourmis, quoi.
Pourquoi on garde des mémoires cellulaires d'ailleurs?
Alors, en fait, on est venu sur Terre déjà pour expérimenter tout ce qui n'a pas été réglé.
Bon courage!
Ça, bon courage. Ça veut dire que, en fait, on a évidemment l'âme, elle a fait des chemins de vie divers et variés en fonction de notre maturité d'âme. On a vécu des expériences qu'on n'a pas terminées, des expériences qu'on n'a pas forcément comprises, mais surtout des expériences qu'on n'a pas dépassées. Et en fait, le but de l'évolution terrestre, pour nous, humains, c'est d'aller grandir à notre conscience, de gagner en amour et de gagner en beauté d'âme et en pureté de conscience. C'est ça qu'on est venu faire. Mais pour ça, pour gagner ce pas, en fait, on est obligé de vivre ce que nous appelons la dualité. Simplement parce que c'est de l'énergie. On ne peut pas avancer dans la lumière si on n'a pas l'observation de nos parts d'ombre. Donc nos parts d'ombre, ce n'est pas forcément une charge négative, ce sont des zones d'incompréhension, ou des zones qui n'ont pas été expérimentées totalement. Donc on vient revivre ces vibrations, ces réminiscences du programme karmique, qui sont simplement, je te resserre un dossier pour que tu puisses en faire un nouveau l'expérience. Et cette expérience que nous allons refaire, le but, c'est que lorsque nous comprenons que nous avons ces cellules qui disent et qui racontent ces histoires du passé, qui n'existent plus, mais qui vibrent dans le présent, alors, c'est une formidable opportunité pour aller justement expérimenter quelque chose d'autre. Ne pas se laisser abattre par ce qui est en train de se vivre, mais amener quelque chose de plus. On peut ne plus vouloir vivre ça. On peut décider de vivre autre chose. On peut décider de prendre une situation avec une autre manière de la vivre. C'est ça l'opportunité de la mémoire cellulaire. Parce que aujourd'hui, dans l'énergie qui existe, qui nous tombe dessus tous les jours, hein, quelque part, il y a une accélération du processus de notre conscience. On est obligé de traverser ça. On est obligé de mettre de la compréhension, on est obligé de mettre de la lumière sur ce qui arrive en nous. Pas simplement au niveau de notre santé, mais aussi au niveau de notre être, du sens de l'existence et de la vie sur Terre. Donc la mémoire cellulaire, quelque part, c'est juste un nouvel apprentissage, que notre tête n'est pas seulement celle qui fonctionne, mais que nos cellules pensent, nos cellules sentent, nos cellules vibrent, et que peut-être c'est une nouvelle piste pour nous de nous rencontrer et de pouvoir aussi évoluer.
Ouais, complètement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans notre société, on est plutôt à supprimer, à mettre de côté toutes ces émotions qui sont finalement la porte d'entrée de beaucoup
Exactement.
de... Voilà. Et c'est dommage parce que sinon, l'histoire, elle va se répéter tout le temps,
Tout
constamment,
le
en fait, si on
temps.
n'apprend pas les leçons. C'est
C'est
un jour
ça.
sans fin avec Bill Murray, quoi.
Bah, c'est ça. En fait, l'idée de cette matérialité ou de cette vie terrestre qui est, comme on dit, une vie de troisième dimension, sans vouloir la nier ou la décrier, le problème, c'est que elle ne nous invite pas à savoir qui nous sommes.
Ouais.
C'est-à-dire que nous sommes de l'extérieur, nous faisons évidemment plein de choses à l'extérieur, et pourquoi pas, c'est très bien la matière, hein, de s'incorporer à elle et de faire quelque chose avec ce que nous sommes. Mais le problème, c'est que nous avons de la puissance, en fait. Nous avons une vraie puissance pour nous reconvertir, de création d'abord, de génie intérieur, de capacité à faire de grandes choses, des choses qui nous animent, qui nous donnent de la joie, et que finalement tout ça, on l'a laissé de côté. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris à aller simplement observer ce capital grandissant et en faire quelque chose pour nous. Ça
Complètement.
ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté le reste, le raisonnement ou en tout cas l'action, le mouvement, mais on peut le faire avec quelque chose de plus, quelque chose de plus vivant, de plus honnête et de plus sincère. Quelque part, c'est utiliser une énergie d'authenticité pour exister dans le présent et continuer à vivre dans la matière. Bien sûr, nous sommes venus vivre ça. C'est ça, en fait, l'opportunité de presque quelque part, même moi, de ma mission, de transmettre ça et de dire, mais allez donc écouter en vous ce qui se dit, parce que c'est là qu'est animée la vérité profonde. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir avancer. Cessons de croire que nous sommes, je ne sais pas, limités, faibles, incapables, dévalorisés, etc. Parce que tout ça, ce sont justement les programmes limitants.
Ouais, exactement, ouais,
Et
complètement.
que finalement, aller nous inviter en nous à découvrir la puissance de la création, de la création psychique, capacité de rêver, de co-créer sa réalité, d'inventer une vie meilleure, etc. Ce n'est pas des chimères. Ce n'est pas simplement un rêve pour dire non, ben j'occulte la réalité, mais c'est juste, je me reconnecte à ce qui est de vrai, de puissant en moi, et d'apprendre à le faire en fait.
Et pour ça, faut mettre la main à la pâte,
C'est
faut
ça.
mettre de la lumière dans nos parts d'ombre. Effectivement, ça fait peur, mais nos challenges, c'est ce qui nous font avancer en fait. Et c'est vrai que bah, si on n'est pas capable d'apprendre la leçon, ça va se répéter. Donc voilà, c'est hyper important. C'est les portes de la vers la liberté, tout simplement.
Bah, en fait, ce qu'il faut que, bien que les auditeurs comprennent, c'est que, en fait, nos programmes, si nous les transcendons pas, nous allons les vivre. En fait, nous allons vivre et revivre les systèmes. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de consultants qui viennent pour le travail, pour l'amour, pour les relations, etc. Et en fait, on s'aperçoit que si on ne prend pas en charge la mécanique psychique, c'est-à-dire presque les molécules d'information, grâce à la réalité qui nous fait vivre les mêmes expériences, eh bien, on va rester dans ces expériences et on va presque les valider, puisque comme ça arrive toujours de la même manière et que l'histoire se répète, on va finir par croire que c'est ça la réalité. Et
Complètement.
cette réalité, quelque part, on va dire dépendant et on va s'inscrire dans cette réalité à l'infini et on ne pourra pas en sortir. En fait, l'idée, c'est de dire, à chaque fois que les choses se répètent, j'ai la capacité qu'elles ne se répètent plus. Puisque j'ai la capacité qu'elles se répètent, alors ça veut dire que j'ai autant la capacité qu'elle ne se répète plus. C'est ça la grande force, en tout cas de ma proposition.
Ouais, complètement. J'adore. Est-ce que tu peux vite fait nous expliquer ce qu'est les informations karmiques pour ceux qui sont pas trop dans le karma et tout ça?
Alors, c'est toujours un peu glauque le karma quand on en parle. On a l'impression que c'est des choses très sombres, très noires, la grosse valise qui est accrochée dans notre dos, alors que pas du tout. C'est simplement que notre conscience, quand elle est partie du corps physique, on appelle ça la mort, hein, la mort humaine, on va dire, eh bien, elle a fait des voyages, elle est passée sur des étages, et puis elle a évolué. Elle a compris des choses quand elle n'est plus dans le corps, et puis un jour, elle se sent mûre pour revenir. Alors, je ne vais pas rentrer dans la perception de la croyance en Dieu, la croyance en l'au-delà et tout ça, c'est juste la mécanique de ce qui se passe. La conscience, elle monte, elle fait un chemin, elle traverse des espaces-temps. Et quand elle va redescendre pour venir s'incarner à nouveau, et donc bénéficier d'une nouvelle expérience. À mesure qu'elle descend, c'est comme si elle descend avec un avion, tu vois, elle fait des paliers. Et quand elle fait des paliers vers la 3D, notre Terre, elle va se souvenir de vies qui ont été les siennes lorsqu'elle était au même endroit à la descente d'autres vies. C'est comme si on récupère, tu vois, une charge à mesure qu'on descend et on se souvient. Donc on arrive dans la corporalité et on se souvient. Et puis la vie va faire qu'on va se souvenir, mais on va avoir le sentiment que l'on a vécu des choses. On va avoir le sentiment qu'on est fait pour telle chose, qu'on est fait pour tel métier, qu'on a un appétit pour de telle et telle chose. En fait, tout ça vient de cette dimension transcendantale de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle se souvient en fait. C'est ça l'expérience du karma. Et puis, elle va rencontrer des situations qui vont se synchroniser. Ah tiens, cette chose-là me rappelle. Tiens, cette personne, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Cette situation ou ce lieu me semble, voilà, me sensibilise, me donne des frissons, ou telle personne, je déteste aussi. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a les rapports des rencontres karmiques, mais il y a aussi le rapport simplement de la conscience qui se souvient. On n'a pas forcément vécu des mauvaises choses avec telle ou telle personne, mais la vibration de telle ou telle personne nous rappelle quelque chose qui est déjà vécu. Et en fait, l'idée de cet état d'être, finalement, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je suis en train de vivre pour pouvoir justement récupérer ma charge de lumière, ma conscience, et de traverser des épreuves, et en tout cas, de traverser, d'aller sur son chemin. On a le droit de ne pas vouloir vivre une expérience, dire ça, non, je n'en veux plus. Tu vois, je vois par exemple dans l'amour, j'ai beaucoup de gens qui me consultent, ou dans le travail, bah, par exemple, je ne veux plus être soumis, ou avoir la sensation de ne pas gagner d'argent, ou la sensation d'être toujours dans des échecs répétitifs, ou ce n'est pas moi qui ai le meilleur poste, c'est toujours le voisin. Tu vois, toutes ces choses qui sont quelque part très modernes, très actuelles, elles sont aussi une frange de travail de la mémoire cellulaire. Ce n'est pas fait uniquement pour la lumière ou quelque chose de très spirituel. C'est fait pour vivre mieux dans le présent de notre vie.
Ouais, quand je vois l'état de la société, il y a du boulot.
Ben, il faut avoir conscience, en fait, tu vois,
C'est
déjà.
ça.
Et puis, il faut vouloir changer.
Complètement, là, c'est des pilotes automatiques. Hein. Pour beaucoup, effectivement, on n'a pas été éduqué sur ce sujet. On est stressé, donc pas du tout connecté en plus avec ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur. On ne se pose même pas la question, mais on est malheureux, puis on a de l'addiction ou d'autres manières de changer les idées finalement. Et c'est vrai que oui, ce travail d'introspection, il est dur, hein, et il faut avoir cette volonté.
C'est dur le changement, parce que si tu veux, la conscience et les cellules, elles ont eu des mécanismes psychiques, émotionnels, mais aussi énergétiques. Parce que tout ça finit par être de l'énergie, tu vois. On est aimanté à des systèmes aussi, puisque notre énergie se diffuse à 4 mètres, hein, c'est ce que j'explique dans les corps énergétiques dans mon livre. C'est-à-dire que notre énergie vibre. Et elle crée, moi, quand je suis en lecture, tu vois, j'ai accès à des informations à 2, 3, 4 mètres du corps physique. Ça veut dire que si on a l'accès, ça veut dire que l'énergie, elle existe aussi à 3-4 mètres. Donc elle crée cette notion d'attirance, de rejet, et d'énergie qui n'est pas forcément positive. Quand elle l'est, tant mieux, mais quand elle ne l'est pas, ça veut dire que je suis responsable de l'énergie que je dégage. Et donc je me demande comment je peux changer. Eh bien, je vais commencer à observer qui je suis. Comment je pense, comment je sens, comment je communique, quel est mon niveau de conscience, est-ce que je suis en rapport de force, est-ce que je me la raconte, est-ce que je suis vrai? Et tout ça, ce sont des pistes, mais c'est pour soi finalement qu'on le fait aussi, avant de les faire de le faire pour les autres.
Complètement. Donc pour être aligné et puis attirer, voilà, ce dont on est fait pour attirer, pour avec plus d'alignement, etc. Donc oui, je
C'est
suis
ça.
complètement d'accord. Ouais. Alors on sait déjà un peu plus à quoi ça correspond. Merci pour tes explications. Mais je voudrais également parler de ce qui t'a amené à faire ce métier et à devenir également canal spirituel, parce que tu travaillais tranquille ou bilou dans le textile de luxe et la maroquinerie, il me semble. Tu venais en plus d'une famille complètement athée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous, parce que cette histoire ou ces histoires d'ailleurs sont passionnantes.
Alors, je crois que, tu sais, je crois que ma vie, c'est un peu comme le petit poucet. Je suis arrivée sur Terre un peu comme un électron libre. Déjà, ma vie intra-utérine n'a pas été facile, donc ça, c'est important aussi. Je suis arrivée vraiment avec ce tempérament un peu de guerrière, de me battre pour essayer de m'en sortir dans la vie. Et à 12 ans, je fais un premier accident cardiovasculaire, hein, suite à une piqûre de la dengue, qui est un moustique, voilà, exotique. Et avec, à l'époque, hein, moi je suis de 65, tu vois, donc on n'est pas dans cette médication qu'il y a aujourd'hui quand même. Et voilà, on est dans la brousse, et je vais pas bien. Je fais une très très grosse fièvre, et là je fais ma première sortie de corps. Cette première sortie de corps m'amène donc dans un paysage blanc. Extrêmement puissant de lumière et de chaleur, mais en même temps de douceur. Et là, j'ai un homme qui me parle. Alors, je ne veux pas nommer son nom pour pas éveiller la curiosité, mais l'idée, c'est ça. J'ai cet homme qui se manifeste, qui me prend par la main et qui me dit, voilà, ce qui te manque dans le cœur, on te donnera plus tard. Et en fait, je suis sortie de cette fièvre particulière avec voilà, une valve mitrale, donc qui, bon, n'était pas particulièrement dangereuse, hein, pour ma vie, mais quand même très embêtante. Bon, je faisais un peu de sport, je faisais beaucoup de ski et tout ça. Donc, au fil de temps, on s'est aperçu que j'avais cette problématique cardiaque, ce souffle un peu particulier. Il fallait que je fasse gaffe toute ma vie, quoi. Et je suis restée avec ça, avec ce message particulier. Et quand je suis en sixième, en cours d'histoire géo, à l'époque, on avait des petits bouquins avec des petites images judéo-chrétiennes, hein, nous, dans ma période. Et j'ai vu cet homme, voilà, qu'on appelle Jésus, hein, maintenant, mais voilà, qui était dans les livres, dans les bouquins d'histoire. Et je me souviens m'être entendu dire, waouh, mais c'est le mec avec qui je parle tous les jours.
C'est le coco avec qui j'ai bu un coup.
Et en fait, évidemment, j'ai eu la chance, je crois, de ne pas avoir d'éducation religieuse, parce que quelque part, je n'ai pas eu d'éléments perturbateurs, tu vois, ni plus ni moins. Pour moi, les églises, c'était les lieux où on faisait des baptêmes, on mettait de l'eau sur la tête des enfants, et les lieux où il y avait des cercueils et les gens allaient à la tombe. Voilà, c'était, ça se résumait à quelque chose d'assez sommaire. Et quelque part, cette première reliance avec la conscience christique a été pour moi très facile, en fait, puisque je n'avais pas de filtre. Ni de croyance, ni de foi, je n'ai jamais ni lu la Bible, ni rien du tout, ni même eu de dogme d'ailleurs. Mais voilà, j'étais avec ce compagnon de route qui, quelque part, me soufflait des choses. Donc cet état était, si tu veux, vécu avec beaucoup de simplicité, avec rien de particulier. Et puis j'étais quand même quelqu'un de très songeuse, de très idéaliste déjà. J'aimais la dimension de l'invisible, j'aimais la magie, voilà, j'aimais me déguiser, tu vois. J'étais déjà dans cette espèce de féerie infantile qui a nourri mes rêves en fait d'enfant et m'a donné en même temps une sensation très profonde que tout était possible. C'est-à-dire que sans le savoir, j'avais l'impression que ok, tout ce que j'allais vouloir, eh ben c'était possible. Pour moi, la notion de limite, je comprenais pas ce que ça voulait dire.
Ça, c'est
J'étais
bien.
pas à l'école, j'étais pas brillante, tu vois. J'étais plutôt un électron libre, un peu emmerdante, hein, d'ailleurs, parfois. Mais voilà, je me sentais en capacité de pousser des limites. Enfin, ça a été vraiment mon premier plan de vie. Et puis là-dessus, voilà, ben, ma vie m'a lancée. Dans le textile, voilà, dans la création. J'ai monté des affaires à l'époque. Voilà, je faisais de la création de robes de mariée, de la maroquinerie en même temps. Enfin bon, j'étais un peu voilà boulimique de travail, boulimique d'envie de faire des choses et vraiment sans peur. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que le terreau de ma vie, c'est en fait je n'ai jamais eu peur de faire. Je ne sais
Ah
pas ce que
ouais.
c'est la peur de faire, les limites et les freins à l'action. Et à l'élan de vie. Voilà, ça a été ça, pour moi, la trajectoire. Et là-dessus, ça m'a porté. J'ai osé beaucoup, toujours un peu plus. Et deuxième NDE. Deuxième NDE, celle-ci, elle est plus touchy parce que celle-ci, elle m'emmène. Voilà, j'accouche de mon fils et je fais ce qu'on appelle un placenta previa, donc quelque chose qui est très grave. Et là, je pars. Là, je pars vraiment. Là, je me vois au-dessus de mon corps. Je vois cette dimension terrestre qui essaye de me réanimer et puis de me faire vivre. Et de l'autre côté, je sens ce waouh de légèreté, cette lumière qui est là, cette chaleur même, mais ce n'est pas une chaleur chaude, c'est comme un petit bain, comme on est dans un berceau. Et je me sens portée par des voix lumineuses, tu vois, qui m'appellent. Mais en même temps, je sens que je cherche mon fils, tu vois, c'est l'ambivalence. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir mon premier fils, donc c'était vraiment un enfant extrêmement désiré. Et je le cherche, et je me vois le chercher, c'est-à-dire que je n'ai plus de corps, en fait je vois que je n'ai pas de corps, mais j'ai tout. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la conscience, elle est pleine. Elle a autant la motricité de ses bras que de ses jambes, que de son esprit, et puis surtout, elle a une dimension 360 degrés. En fait, en même temps, je suis dans le couloir, mais en même temps, je me sens pensée, en même temps, je suis au quatrième étage, en même temps, j'entends le gars qui essaie de me sauver. En fait, c'est comme si je suis à plein d'endroits en même temps.
Tout
Un
en même
peu
temps.
comme un kaléidoscope, on pourrait imaginer ça. Et je cherche mon fils, en fait. Alors, je ne le vois pas physiquement, mais sa présence est là. Il n'est pas au même endroit que moi. Hein. C'est vraiment ça. On a l'impression qu'il est quelque part, il n'est pas loin, mais il n'est pas au même endroit que moi. Mais il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de sensation, nous, terrestres, de limite, de pas trouver, par exemple, qu'on pourrait avoir, ou de panique, comme une maman qui pourrait chercher son enfant, tu vois. On n'a pas toutes ces préoccupations cérébrales. On est dans une autre dimension. On est juste en train de chercher, récupérer le fils. Voilà. Et là, je sens qu'il n'est pas là, mais il y a quelque chose qui me dit, bah, c'est bon, on va le chercher, quoi. Voilà, vas-y. Et là, je réincorpore ce corps avec une forme de douleur quand même, comme si, tu vois, on m'avait mis un coup de, Un coup de poing dans le torse, quelque chose comme ça.
Ouais, je vois. Ouais,
Ouais.
je vois effectivement, parce que vu que j'ai fait des sorties astrales, il y a ce côté hyper léger et tu rentres dans la densité du
C'est
corps humain,
ça,
je dirais
c'est
ça,
ça.
ouais.
Et moi, j'ai vraiment la mémoire du mal, tu vois, de. On m'avait tapé avec un marteau. Mais en même temps, ça a été violent, mais instantané. Ça a pas été, j'ai pas été une douleur longue. Et au réveil, j'ai l'impression que je suis dans une autre dimension. C'est-à-dire que les gens, l'infirmière me parle, tout ça, et j'ai envie de la regarder sourire. J'ai, tu vois, comme quand t'as, tu vois, comme quand t'as bu ou que tu es un peu comme ça dans une autre, de flotter, quoi. Mais en étant
Ouais.
très présente. C'est-à-dire que, tu vois, je vois les coutures de sa veste, tu vois, les coutures de sa blouse, comme si ma conscience a une capacité de voir les moindres détails, une autre vision de la réalité. Et je crois que cette vision de la réalité ne m'a jamais quittée. Tu vois, c'est-à-dire que les détails de la vie, les contours de la vie, les coutures de la vie, je dirais, la manière dont les gens sont, ce qui m'arrive dans la vie, les rencontres, ce que nous appelons, nous, les synchronicités, les éléments de la matière. J'ai l'impression que la vie, c'est comme tu vois, de la dentelle, de l'orfèvrerie, et que, quelque part, je me connecte à cette réalité tout le temps. Et
Ouais.
ça, c'est assez incroyable.
Ah, c'est génial. Et alors, comment ça t'a amené à faire ce métier et à communiquer, mais aussi avec quel sens tu communiques et avec qui? Comment ça se passe? Tu entends, toi?
Alors, moi, j'entends, je vois, je touche. Déjà, j'ai pas choisi, moi, ce métier. Moi, je n'ai pas absolument pas l'âme d'une sauveuse. Jamais de ma vie, j'aurais fait des études de, je sais pas, de sociaux, de psycho, ou, tu vois, avec une volonté particulière d'aider les autres. Mais jamais, ô combien, jamais. Les autres, bon, ouais, ok, j'aimais bien les autres, mais j'avais pas de dimension, tu vois, humaniste au sens de l'accompagnement en présence, etc. Moi, j'étais une working girl, j'étais dans la matière, tu vois, c'était dans le textile, donc vraiment dans des choses extrêmement matérialistes, mais en même temps, je dois le dire, une très grande humanité. Je me suis toujours sentie avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour sur les choses, les gens, etc. Beaucoup de, voilà, une espèce de matriarcat comme ça, d'aider les uns et les autres, et ça a toujours été mon énergie de vie. Par contre, quand je suis sortie de là, en fait, j'étais dans les affaires et en fait, ma vie s'est écroulée. C'est-à-dire que j'ai perdu mes affaires. La vie m'a fait perdre mes affaires. Synchronicité ou événement de la vie, en tout cas, voilà, j'ai perdu mes affaires. J'ai tout perdu, ma maison à l'époque, tu vois, je me suis retrouvée vraiment dans la difficulté matérielle. Et dans cette difficulté matérielle, il fallait me trouver une solution, en fait. Il fallait que j'ai une solution. Et en fait, il y a une voix qui m'a dit, tu vas transmettre. Tu vas transmettre. Alors, on pourrait dire, un humain, il va dire, oui, mais je ne sais pas quoi transmettre ou qu'est-ce que je dois transmettre. Tu vois, un humain, il va réfléchir à ce qu'il doit faire. Et là, finalement, la vie m'a amené, voilà, des gens que j'ai entendu parler, une personne qui m'a parlé du professorat, enfin, tu vois, et comme si les éléments de la vie, c'est de se rassembler autour de moi pour me donner des pistes. Exactement comme un jeu de pistes. Et je captais ça, tu vois. Et je me suis dit, tiens, ok, je vais enseigner.
Pas difficile. Ok, bon.
Oui, comme tu dis, pas difficile, mais en même temps difficile. Quand on vient d'un échec, quand on est, tu vois, on est dans le chaos total, tu vois, déjà, il faut avoir la ressource psychique et énergétique de dire, bah, il faut que je, tu vois, mais bon, il y avait les enfants qui étaient là quand même, et il fallait donc l'instinct de survie. Je crois beaucoup à l'instinct de survie. C'est ça qui m'a sauvée, en fait. Et à ce moment-là, ok, bah, je vais enseigner. Ok, je vais enseigner. Pour sortir de ce chaos, tu vois. Donc, je me mets en quête d'enseigner. Donc, du fait de mon expérience, de mon passé aussi, de mon bagage, j'ai réussi, voilà, à avoir un poste, puis un autre, et ainsi de suite, et à me reconstruire. Et donc, je me suis lancée pleine balle, comme on dit, dans ce nouveau métier du professorat. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai développé une très grande capacité de travail. Alors, que j'avais déjà à l'origine, tu vois, mais qui était déjà démultipliée. Une très grande capacité d'absorber, de faire, de démultiplier. Et là, c'était déjà ça, tu vois. C'était déjà cette capacité presque sensorielle, mais aussi énergétique, d'avoir un cerveau qui tournait H24. Et là, quand j'étais prof, eh bien, je sentais que quand j'étais prof, ce que je disais n'était pas totalement à moi. C'est-à-dire que j'étais comme accompagnée, tu vois, dans les éléments de la connaissance, mais beaucoup dans les images qui venaient. J'avais beaucoup d'exemples qui venaient, on m'envoyait des images, tu vois, c'était extrêmement nourri. Et parfois, je m'étonnais même de la manière dont je pouvais parler pendant des heures et des heures comme ça, sans, tu vois, sans réfléchir presque. Si c'était fluide et que ça me traversait. Et c'est déjà le cas toujours quand je suis en conférence ou quand je suis, tu vois, en groupe, même avec les séances. En fait, c'est fluide et ça descend. Et cet accompagnement, il m'a suivi. Et en fait, je dirais que c'est par toutes ces expériences que le don s'est placé. Il s'est placé intrinsèquement dans ma vie matérielle, en fait, dans ma vie de tous les jours. Donc, ça s'est fait vraiment au fil du temps. Jusqu'au jour où ma voiture tombe en panne à la sortie de l'autoroute de Suisse, puisque j'enseignais en Suisse. Et à l'époque, je me souviens, je faisais un petit peu de réflexologie parce que ça me plaisait, et puis je bricolais comme ça un petit peu, tu vois. Mais je sentais que quand je touchais les pieds, waouh, j'avais des images qui venaient des gens, tu vois, c'était fluide en fait déjà. Mais la chance que j'ai eue, et je crois que c'est ça la vraie clé du don, c'est que je ne me suis jamais posé de questions. Jamais j'ai remis en question ce qui venait à moi, en fait. Je me suis jamais dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je recevais et j'accueillais tout ce qui venait.
T'as pas fait intervenir le mental et les
Jamais.
doutes.
Mais en fait, je crois que sincèrement, j'en ai pas, en fait. Je crois que sincèrement, j'en ai pas. Et en fait, c'est comme si l'onde cérébrale, si tu veux, elle reçoit les infos. Ça s'est fait comme ça, c'est arrivé comme ça, pas à pas, tu vois. Et quand ma voiture est tombée en panne, je me suis trouvée ramenée par un taxi-femme. Et elle avait une grosse minerve autour du cou, cette dame. Et elle me parle de son petit-fils qui, malheureusement, était gravement malade, avait une leucémie. Et me voilà lui dire des choses sur son petit-fils, tu vois. Sur la mère, sur le père, etc. Elle me dit, mais comment vous pouvez savoir ça? Je dis, j'en sais rien, c'est ce qu'on me dit en fait. J'ai suivi ce petit hein, qui a eu la chance d'être sauvé, que j'ai accompagné beaucoup à distance, mais sans savoir exactement ce que je faisais en fait à l'époque. À l'époque, je n'avais pas la théorie, j'avais l'expérience que j'étais en train de vivre, qui me faisait me plonger dans un univers. Et là, ma vie a changé. La situation de prof s'est arrêtée hein, suite à des déconvenues. Familiale et puis des déconvenues aussi professionnelles, j'ai décidé de. Voilà, ça s'est arrêté. Et me voilà projeté dans cet univers. Et là-haut, on me dit, tu portes l'abondance et la guérison. Le hasard, je vais me balader, tu vois, je m'assois sur un pendule dans la forêt, il faut déjà le faire, ça. C'est incroyable de rencontrer un pendule sur ton fessier, tu vois,
C'est
alors que tu es
clair.
simplement en train de te balader. Et cette voix me dit ça. Et de ce jour-là, ça n'a pas arrêté en fait. Et ça fait maintenant 24 ans, 25 ans que ça dure.
Oh, c'est fou. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est de voir à quel point ta personnalité n'a pas été, contrairement à moi, influencée par tes peurs et bloquée par tes peurs. Tu vois, c'est formidable hein, de vivre sans. Bon, bien sûr, tu as dû avoir quelques peurs, bien sûr, mais de vivre sans ce truc-là qui est un énorme poids et un ralentisseur énorme.
Bah, en tout cas, sur cet outil de travail, sur cette clairvoyance, cette clairaudience et cette relation aux mondes invisibles, je ne sais pas ce que c'est la peur en fait. Je ne connais pas ça. Tu vois? Je dirais que je vois pas où est la peur en fait, puisque la relation que j'établis avec les mondes invisibles, elle est visible comme je te vois. Je ne
Oui,
peux
si
pas
tu vois et
avoir,
tu entends.
je ne peux pas avoir peur de toi, puisque je te vois et que tu vois, si c'est fantomatique et que c'est noir, etc., je peux me dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui n'est pas clair. Mais pour le coup, moi, la guidance, elle est claire, comme de l'eau de roche. Ma conscience, elle est projetée avec eux. Je leur parle encore une fois comme je te parle. Quand ils me miment le scénario que les cellules portent ou que les cellules s'animent à moi par des scénarios, c'est clair et c'est fluide. C'est là. Tu vois, donc il n'y a pas de potentialité d'avoir peur.
Alors justement, comment se passe une consultation en mémoire cellulaire?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a soit en présentiel, tu vois, donc les gens s'allongent et m'exposent leurs problématiques. Une ou plusieurs problématiques. Parfois des problématiques corporelles, psychologiques, etc. Et moi, alors, je les écoute, mais si tu veux, je tiens compte sans tenir compte. C'est-à-dire que j'écoute leurs requêtes. Pour moi, c'est la porte d'ouverture de la demande. Donc, ils ont généralement beaucoup de demandes. Ils viennent même avec un papier de liste, souvent. Mais ce qui est très étonnant, c'est que toutes leurs demandes vont converger, en fait, vers des points d'information qui se relaient entre eux. Donc ils s'allongent, J'ouvre le plan. Alors je me protège toujours hein, pour ne pas prendre les miasmes de mémoire négative. Et j'ouvre le plan, la guidance de mon guide qui m'ouvre à la lecture. Et là, je me laisse traverser. C'est-à-dire que c'est à partir de là que les mots qui vont sortir de ma bouche vont sortir du plan de la guidance. Alors parfois, les mots, si tu veux, c'est une espèce de prose, de poésie. Hein, parfois, ce sont des images, des symboles, etc. Et c'est fluide. Et ça dure à peu près voilà, 40-45 minutes. Donc ça, c'est, si tu veux, c'est la libération du programme, mais en même temps, la guidance me demande la transmutation. Par exemple, quand il y a une charge d'énergie très forte, je ne sais pas, imaginons sur le cerveau droit, on me montre que ça s'enlève, tu vois, comme des champs électromagnétiques presque. Et la guidance va me donner le convertisseur. C'est-à-dire qu'elle va me donner la phrase, la vibration, qui va rentrer en symbiose avec la fréquence de l'onde cérébrale ou des cellules qui ont été fortement marquées par la mémoire ou en tout cas par le scénario négatif. Donc il y a vraiment cette congruence entre moi qui suis quelque part dans la 3D, ici présente physiquement, qui suis connectée à la 5D par les ondes cérébrales θ et le chakra 6, hein, c'est-à-dire le troisième œil, et puis qui me permet évidemment d'avoir l'audition, la claire conscience de ce qui est en train de se passer dans le corps physique.
Et c'est par les mots que tu, du coup, que tu converges et transmutes, du
C'est
coup, c'est
ça.
ça? C'est pas par
Voilà.
les mains ou en faisant des
Si.
choses, non? Ah, si, aussi, donc.
Il y a les trois en fait. En fait, il y a tout. Il y a l'énergie
Ok.
qui est donc dans l'aura, tu vois, qui bouge et qui est fluide. Il y a le psychisme, c'est-à-dire les mots qui sont soulevés, qui justement passent par les ondes bêta, puisqu'on les sort par les ondes bêta, hein, la place des croyances et l'hémisphère gauche. Et puis, il y a l'énergie de la guidance qui passe par la 5D, qui elle va taper dans les cellules. Sur les membranes des cellules, via le cytoplasme et surtout via les ondes θ, c'est-à-dire nos ondes spirituelles.
Ouais. Et tu dis que tu changes la signalisation, c'est ça?
Ça, c'est
C'est
ça.
marrant.
En fait,
À
c'est
droite, à gauche.
comme des clés USB, tu vois, en fait, une onde, et c'est drôle parce que tu vois, là, je sors de séance aujourd'hui, mais les gens, ils sont. Je suis par exemple à 4 mètres, où j'ouvre les programmes, imaginons karmiques très violents, très loin, tu vois, qui sont loin du corps, mais qui jouent sur la lymphe, par exemple. Ben les gens, même à 3 mètres, ils font des sursauts sur la table. Tu vois, parce qu'il y a une interaction dans les flux.
Ouais. Ah là là, c'est passionnant. C'est passionnant. Et tu parlais des ondes θ, qui sont des ondes cérébrales, il me semble, de la relaxation très profonde à la base.
C'est ça?
Ouais. Est-ce que tout le monde peut se connecter aux ondes θ comme tu le fais? Parce que généralement, il faut être un habitué des méditations.
En fait, c'est pareil, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut s'habituer à ça. Moi, tu vois, je pratique en groupe, justement. Alors ça, c'est pour les séances en privé, mais pour les séances de groupe, par exemple, les gens s'allongent chez eux, ils se connectent à ma vibration, tu vois. Donc, ils m'entendent, ils mettent leurs petites oreillettes, et je les connecte à distance. C'est-à-dire qu'à distance, tu nettoies des programmes. En interaction, c'est-à-dire par exemple les peurs, imaginons, puisque c'est un fléau quand même, les peurs, eh bien, dans la guidance. Chacun va nettoyer son programme de peur qui lui est propre. C'est ça qui est incroyable.
Ouais.
Par les ondes θ. Tu vois? Et ça vient toucher sur les ondes gamma et les ondes bêta jusqu'à la prise de conscience et au lâcher prise du flux sur les ondes bêta grâce à la connexion spirituelle et au langage de la source qui traverse ma bouche, toi, tu vois? Et sur nos fréquences qui sont des séances de groupe, c'est incroyable de résultats. Incroyable de résultats.
Est-ce que donc tes clients savent quand ils entrent en fait en onde θ ou tu ne le sais pas parce que tu as moins de pensées? Comment ça se passe?
Mais ils en ont pas, je les mets en état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'ils
Ouais, d'accord.
s'allongent dans leur canapé, tu vois, ou dans leur lit, et puis ils se laissent porter par la méditation connectée. Donc c'est pas une méditation, c'est vraiment une méditation connectée. Donc c'est hyper puissant et c'est vraiment un soin, quoi. C'est un soin énergétique qui a une très grande ampleur. Et là, ce matin, par exemple, j'avais une dame qui avait une maladie inflammatoire, tu sais, articulaire très,
Polyarthrite rhumatoïde?
voilà, et extrêmement ankylosante. Elle ne
Oui.
m'a jamais vue en séance, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas vue en physique. Elle est venue aujourd'hui de très loin. Et en fait, elle a fait sur nos fréquences, sur les articulations et sur les inflammations. Elle m'a dit, mais c'est un truc de dingue. Elle me dit, j'ai quasiment plus rien, alors que bah, elle avait de la cortisol, etc. Alors bien sûr, hein, moi je ne suis pas contre la médication traditionnelle. Mais je veux dire qu'il y a une partie de la conscience qui, quelque part, reçoit ça comme un vrai bénéfice. Et c'est ça qui est intéressant.
Ah oui, non, non, c'est clair, ouais. La suite la semaine prochaine.